par ses textes, par la radio, il a fait le lien entre l'Orient et l'Occident.
Une des choses les plus importantes, c'était de faire prendre conscience aux Européens, et aux Français en particulier, de l'héritage de l'Europe avec l'islam et le monde arabe. En fait, il disait, on dit toujours, on est ici, c'est judéo-chrétien. Il disait non, c'est judéo-chrétien et aussi musulman.
Prénom ?
Abdelwahab.
Nom ?
Medeb.
Date de naissance ?
Le 17 janvier 1946, à Tunis, dans un milieu musulman conservateur et cultivé.
Il est marié ?
Avec Amina, diplomate. Une fille, Inde, documentariste.
Ses études ?
Philosophie, lettres, islamologie, une dilection pour l'histoire de l'art.
Profession ?
Multiple, éditeur, traducteur, enseignant. Une consécration à partir du milieu des années 1990. Une chaire de littérature comparée à Nanterre, une émission Culture d'Islam à France Culture, une chronique à Médien qui est une radio de référence au Maghreb. Sa production sur les ondes méritait un hommage en cette semaine de la radio.
Ses œuvres ?
Ou une trentaine de livres dans sa bibliographie, il aurait préféré en consacrer encore davantage au soufisme, à la poésie, au roman, à l'amour. Mais les maladies de l'Europe et plus encore celles de l'islam l'ont fait travailler beaucoup sur la malédiction du littéralisme, de l'intégrisme, de l'islamisme.
Et sa mort ?
Les calamités de l'époque ne sont peut-être pas étrangères au cancer qu'il a emporté prématurément le 5 novembre 2014. Une association des amis d'Abdelwahab Medeb vient d'être créée.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Il lui arriva de fonder des revues et l'une d'elles, qui repérait les chemins qui menaient de l'Orient à l'Occident, s'appelait Dédale. La Tunis de son enfance était déjà Dédale. Porte bleue, doux, tendre, avec leurs clous noirs, repère dans le labyrinthe des rues, des ruses de la Médina. Notre guide, tout au long de notre parcours avec Abdelwahab, sera Inde, sa fille, documentariste, ça a été dit, documentariste de son état, si ça peut être un état que de ne jamais rester en place et de toujours scruter le visage de l'autre.
La famille est originaire de Cordoue. C'est une famille de théologiens, de religieux, qui écrivaient et qui commentaient le Coran et qui enseignaient la religion. Et c'est pour cette raison qu'on a un arbre généalogique qui remonte jusqu'au Moyen-Âge andalou. Et la famille a été obligée de quitter l'Andalousie au moment de la Reconquista, Isabelle la catholique, et le retour de la chrétienté dans cette terre d'islam. Et donc, ils se sont exilés en Tunisie et ils sont devenus des théologiens à la Zitouna, la grande mosquée de Tunis. Très jeune, à 16 ans, il m'a raconté qu'il est allé voir son père parce qu'il a grandi dans une famille très religieuse. Son père était chir à la grande mosquée de la Zitouna. Il enseignait le Coran. C'est une famille d'imams, de théologiens. Donc Abdelwahab a appris le Coran par cœur à l'âge de 5 ans, comme tous les enfants faisaient à l'école coranique. Et il m'a raconté deux anecdotes. Alors la première, c'est un de ses souvenirs d'enfance. Donc on vous oblige à apprendre par cœur le Coran. Et lui, il oubliait. Et donc, comme il oubliait, il inventait des vers. Donc, il inventait des versets. Donc, il était déjà poète à 5 ans. Et puis, il se faisait taper sur les doigts par le professeur, parce que c'était la pire comment on dit, des transgressions, de réécrire un texte qui est un texte sacré. Et la deuxième anecdote, c'est le jour où, à l'âge de 16 ans, et en fait, il a fait la lecture de Nietzsche, et il est allé voir son père pour lui dire qu'il ne croyait pas en Dieu, et puis qu'il ne ferait plus la prière. Alors le rapport à la croyance, est-ce qu'il était athée, c'est très compliqué parce que plus il a avancé dans sa vie, plus il avait aussi une relation spirituelle avec les choses. Et ce qui l'intéressait dans la religion, effectivement, c'était la dimension spirituelle, la dimension philosophique, la culture, tout ce qui est porteur de civilisation, beaucoup plus effectivement que le dogme ou la pratique, faire le ramadan, faire la prière, etc. Et il voulait que les gens se libèrent justement du dogme.
Pas de contrainte en religion. Medeb aimait citer la sourate 2 du Coran, verset 256. S'il était resté musulman, c'était par choix. En même temps, il tenait en haute estime la religion de ses pères. Il ne voulait pas qu'on l'ignore. Rien n'est pire que de se tenir paresseusement dans l'ignorance de son ignorance. Quand il accepte, il y a 25 ans, la proposition du directeur de France Culture d'alors, Patrice Gélinet, de produire une émission hebdomadaire sur l'islam, il ne la conçoit aucunement comme un objet politique. Homme de parole, il va tenter d'incarner les diverses cultures, au pluriel, d'islam. Incarner. Son Coran n'est pas incréé, il est incarné.
Culture d'islam, bonjour. Pour que l'approche du Coran soit totale, pour que l'intégralité du corps puisse jouir du Coran. Donc on lit le Coran à voix haute, comme ça, le sens qui concerne l'appareil gustatif est traversé par la lettre, lui aussi reçoit la lettre, et on ajoute à cela, pour qu'il y ait une plénitude corporelle dans le rapport avec la lettre et avec le Coran, on touche la lettre du doigt à mesure donc qu'on avance dans la lecture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nombre de sens se trouvent sollicités dans l'opération de lecture. Je crois que ce premier contact avec la langue coranique a créé en moi une modalité de ce que j'appellerais une lecture poétique. Je crois que c'est une des raisons de ce lien sacral avec la langue, c'est qu'on a l'impression que par la voix, mais aussi par le graphe, on a l'impression que le signifiant prime sur le signifié. Et quand on voit le système de la cantillation, la technique de la cantillation coranique, elle exalte cela, toute la vocalise, toute la manière avec laquelle le mot, la phrase entre dans les ondulations de la modulation vocale, quelque part c'est l'exaltation du son, l'éloge du son qui devient premier. Et on n'arrive presque pas plus à entendre, on est bercé par l'archi-musicalité des mots déjà qui sont présents dans le Coran et qui sont exaltés par la voix. D'autre part, lorsqu'on voit le deuxième élément qui exalte le texte coranique et la calligraphie, nous savons tous que la calligraphie est l'art premier dans la hiérarchie des arts visuels en islam, et le fait que donc la calligraphie n'est pas restée seulement dans le livre, elle a migré vers le monument, elle est devenue aussi monumentale, elle est devenue l'élément principal de la décoration en lien avec l'architecture, avec l'espace donc. Et là aussi, nous avons très exactement le même phénomène, c'est-à-dire les styles décoratifs, il est très difficile de les lire, ils ne sont pas destinés à être déchiffré pratiquement. C'est encore une fois une autre forme de musicalité, une autre forme d'exaltation, une des raisons de qui entretient ce lien avec la dimension sacrée du Coran vient justement de cette exaltation musicale, à la fois par la voix, par la cantillation, donc d'une part, ce qu'on appelle le tajwid en arabe, la psalmodie si l'on veut, hein, toute cette technique du psalmiste, les diverses écoles psalmistes, la plus célèbre étant celle d'Égypte, et en même temps, donc par la calligraphie, donc par la voix et par le graphe, il y a cette exaltation de la musicalité, donc cette faire en sorte que le texte coranique soit avant tout une présence qui excède le sens.
L'arabe du Coran ne coïncide pas avec la langue vernaculaire qu'on parle dans sa famille, où on ne parle pas français. Néanmoins, ses parents l'envoient après l'école coranique à l'école française. Plus tard, il écrira peu en arabe et davantage en français. Mais sa femme et lui, à la maison, ne parleront qu'arabe devant leur fille, Hind. Il faudrait que les langues ne soient pas étrangères, qu'elles soient seulement étranges. Et il faut concevoir cette diversité comme un don que Dieu a consenti à faire à l'humanité, afin que chaque langue fasse des signes à l'autre et que chacun soit éprouvé par l'autre qui parle à sa façon. Les premiers métiers d'Abdelwahab seront d'ailleurs celui de lexicographe auprès d'Alain Rey, au Robert, et de traducteur. Alain Rey préférait le beau mot de truchement. Et comme Abdelwahab respirait large, il lui arrivait même de traduire des langues qu'il ne connaissait pas, comme le japonais. Seul un poète peut traduire un poète. Passage improbable.
Peut-être qu'on peut lire juste un petit poème. C'est des poèmes très courts. La lune entre mille nuées, l'avoir aperçue sans avoir jamais su si son ombre logeait dans la manche mouillée. Éclat de lune sans voile, son hôte, c'est le cœur qui pénètre les nuages entassés à la recherche de sa demeure.
Monsieur Lebrun, la circulation des langues dans l'espace arabo-musulman, c'est le plaisir de Medeb. Et la circulation entre les pays, serait-ce sa manière d'être ?
L'un des 12 numéros de sa revue Dédale s'intitule « La venue de l'étranger ». Errance, hospitalité, hostilité. Je vous propose de feuilleter avec Hind Medeb l'album des incessants voyages entre les nations de la famille. Amina, la mère est marocaine, ce qui pourrait contribuer à la fixer dans le royaume. Mais elle travaille dans la diplomatie culturelle et elle a le pied ailé, comme Abdelwahab.
Alors j'ai réuni quelques photos. Par exemple, il y a cette photo que j'aime beaucoup, prise en Turquie avant ma naissance, en 1976. L'été de 1976, mes parents sont allés en voiture jusqu'en Turquie. Et cette photo a été prise par, vous voyez, les photographes qui mettent la tête sous le, vraiment les anciens appareils. Et je trouve qu'on dirait deux bohémiens, deux gitans. Voilà, je vous montre la photo. Et ça, c'est un voyage qui les a beaucoup marqués. Parce que c'était une époque où la Turquie n'était pas encore un pays touristique. Ils ont habité chez l'habitant, ils ont voyagé dans des petits villages, ils ne parlaient pas du tout turc. Ils ont rencontré là-bas aussi des intellectuels turcs qu'Abdelwahab voulait rencontrer, avec qui ils ont eu des très grandes discussions. Mais il y a eu aussi vraiment cette relation avec un peuple qui était encore très préservé du monde capitaliste, à la campagne, dans des endroits où la relation avec les gens était magnifique. Voilà, donc c'est un peu comme un jardin d'Éden, toutes ces photos. On voit mes parents à l'époque très jeunes, très amoureux.
Hind garde le souvenir d'un premier voyage en Italie et de la découverte de Giotto. Abdelwahab lui avait expliqué l'avantage que l'Occident avait acquis dès lors qu'à la différence de l'Orient, il avait disposé de la possibilité de représenter le Christ. Les voyages de la famille l'amenaient d'ailleurs souvent en Europe. Abdelwahab ne la concevait pas comme une exclusivité de la chrétienté. Pour lui, par exemple, Cordoue, c'était une capitale musulmane, dont le rôle au Xe siècle avait été comparable à celui que tint Bagdad au IXe.
À Bagdad, à partir du début du IXe siècle, on a assisté par exemple à une révolution poétique. On avait conscience qu'on était en train de produire de la modernité. Le terme même d'ailleurs de moderne, son équivalent arabe, était utilisé. Du reste, c'est très important de le dire et de le savoir pour que cette notion de modernité soit perçue comme une notion transhistorique. C'est-à-dire, il faudrait savoir qu'il y a eu de la modernité au sens où nous le comprenons aujourd'hui, au IXe siècle à Bagdad, comme il y a eu de la modernité, une intention de faire donc du texte moderne, de la poésie moderne, dans le XIXe siècle français. Ce même état d'esprit était là. présent. Et alors, très souvent, ce type de littérature n'est pas soumis, évidemment, à la logique de la lettre. Bien au contraire, moi, je dirais que c'est dans la traversée de l'interdit, dans le contournement de la lettre, sinon dans sa transgression, que ce type de poésie a lieu.
Enfant, je rêvais d'aller à Bagdad, et puis il y a eu la guerre du Golfe et toutes ces choses qui ont fait. Mais on est allé avec Abdelwahab à la frontière. On est arrivé à la frontière de l'Irak, à l'époque où ma mère vivait en Syrie. Elle a travaillé en Syrie entre 2001 et 2003. Et on a fait un grand voyage avec Jean-Luc Nancy, sa femme et son fils, ma mère et Abdelwahab. Et on a traversé tout le pays. Et on est allé effectivement sur les bords de l'Euphrate jusqu'à la frontière avec l'Irak. C'était un voyage extraordinaire parce qu'on voyait en fait que la Syrie était vraiment le berceau de l'humanité. On a visité la première ville, Marie, la première ville dans l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai que c'est en Syrie qu'on a inventé le premier alphabet, qu'il y a eu les premières civilisations citadines. Et c'est un pays qui est profondément marqué par les trois monothéismes.
Les civilisations se lèvent sur le bord des fleuves. Ici brillait, il y a 4000 ans, un des plus extraordinaires foyers humains d'alors. Non loin des rives fertiles de l'Euphrate, un grand souverain régnait dans son palais immense et luxueux, Zimrilin, le roi de Marie. Le nom de cette riche cité ne serait peut-être pas venu jusqu'à nous si le puissant Hammurabi, roi de Babylone, n'en avait fait mention dans ses mémoires de guerre. Ses écrits nous apprennent en effet qu'il s'empara de Marie et détruisit ses murailles, la 35e année de son règne. Le palais de Zimrilin fut incendié, les temples saccagés. Marie s'enfonça peu à peu dans les sables.
À l'évocation de la splendeur passée des capitales, Abdelwahab Medeb ajoutait celle des maîtres spirituels qui témoignaient silencieusement dans les déserts de sable. L'oasis de Siwa a ceci de particulier que le chemin des saints y croise celui d'un héros.
Siwa, c'est un désert qui est à la frontière de la Libye, en Égypte. Abdelwahab a découvert ce désert avec Amina, avec ma mère Amina. En fait, c'est l'endroit où Alexandre a reçu l'oracle.
Ils avançaient dans le désert des déserts. Alexandre le Grand chevauchait seul, en tête de sa caravane. S'avançant vers la vérité, il sentait battre son cœur. Tout ce chemin parcouru pour consulter l'oracle de Zeus Amon, le dieu du soleil. Bientôt, il entrerait dans le temple et le dieu lui dirait l'avenir. Vaincrait-il les Perses? Serait-il le maître absolu de la terre entière? Le dieu lui-même était-il son père? Lorsqu'Alexandre sortit du temple, la tempête s'était apaisée. La force de ce vent semblait maintenant émaner de tout son être. Sa garde en était sûre. Il faudrait désormais honorer le roi comme un dieu.
Et c'est un endroit aussi où il y a des tombes très très anciennes de l'époque antique. Et c'est une oasis vraiment magnifique. Et c'est un endroit où il y avait la mer. Donc la mer s'est retirée et à 300 km de Siwa, et il reste des lacs de sel qui sont encore vivants, avec à l'intérieur des poissons, une végétation luxuriante. Il y a aussi des sources chaudes et des pyramides. Et on pense d'ailleurs que les pharaons se sont peut-être inspirés des pyramides de Siwa, qui sont des pyramides naturelles, des pyramides de sel très impressionnantes au milieu du désert. Et partout, on trouve des fossiles, des traces du passage de la mer à Siwa. Et Abdelwahab rêvait d'aller à Siwa, parce que c'est beaucoup dans la littérature antique, c'est décrit, c'est un lieu qui est décrit. Et ils sont allés avec Amina, c'est 7 heures de voiture du Caire. C'est une route très très longue. Alors on va jusqu'à Alexandrie, ensuite on longe la Méditerranée, on passe à Marsa Matruh, et ensuite on a 300 km de désert absolu avec des cailloux jusqu'à qu'on arrive à Siwa.
Oui, mais le désert, c'est aussi le lieu de la spiritualité pour les moines chrétiens. Les premiers se sont installés dans le désert, et pour les soufis.
Exactement, et il y a des soufis à Siwa avec qui Abdelwahab a créé des liens très forts et qui font des cérémonies soufis. Et quand Abdelwahab est mort, ils ont fait une cérémonie pour lui.
Après France Culture, c'est Radio Méditerranée Internationale qui fait appel à Abdelwahab Medeb. Il y tient une chronique régulière qui fera l'objet de publications ultérieures sous le titre de « Contre-prêche ». Mehdi I, propriété partagée de la France et du Maroc, avec à l'époque une majorité de 51% pour la France, émet depuis Tanger, qui va devenir une escale régulière d'Abdelwahab.
Point de vue Abdelwahab Medeb.
Chers auditeurs, voilà près d'un an et demi que je m'adresse à vous chaque semaine pour vous proposer des éclats qui reflètent la crise de civilisation que nos sociétés traversent. Ma parole va vers votre écoute où que je me trouve, à Paris, souvent, lieu de ma demeure, mais aussi émanant d'autres villes, de Tokyo à Santiago du Chili, de Rio à Montréal, de Damas à Beyrouth ou Tunis, ma ville natale, ou plus près encore, de Turin à Séville ou Barcelone, au gré de mes pérégrinations en tant que personne appartenant à la tribu transnationale des poètes dont le réseau d'errance couvre la vastitude de notre monde. Mais cette fois, je vous parle de Tanger, des studios même de Mehdi I, d'où il m'est arrivé du reste de dire ma chronique trois fois cette année, suite à des séjours dus à l'hospitalité de notre radio, séjours qui m'ont acclimaté au théâtre de lumière qui enveloppe la ville et qui avait apporté l'éblouissement qui fit muter la peinture entre Delacroix et Matisse.
Alors là, c'est un marabout très local, en fait, du quartier, mais qui est devenu très célèbre parce qu'il a été peint par Matisse. Et Matisse, là, on a plutôt une dominante verte-blanche, mais Matisse l'a investi d'une espèce d'énorme couleur mauve. Je ne sais pas quel... Il avait évidemment peint cela l'hiver, c'était en janvier, la lumière de janvier. Peut-être que là, il avait, je ne sais pas, c'était un fantasme, ou s'il y avait un élément du réel pour cette métamorphose vers le mauve. Bifurque, et on retrouve les escaliers qui vont nous conduire vers le quartier de la Casbah. Donc là, on entre dans un quartier monumental. Regardez les très belles arcades, qui sont les arcades purement islamiques, parfaites, c'est-à-dire elles sont... en arc surhaussé, très, 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 très légèrement brisé. Une espèce de fer à cheval à peine brisé. Tout cela, donc, c'est des assises qui font partie, en fait, des murs de la Casbah, sur lesquels il y a ce magnifique blanc, cet éclat blanc qui me rappelle à la fois la Méditerranée et mon pays, la Tunisie, où l'usage du blanc est très, très, très présent.
Vastitude du réseau amical d'Abdelwahab, Michel Portal a composé un album pour lui.
Inter. Intelligence, service.
Medeb est un hédoniste, un poète, un esthète. Le combat va-t-il le rattraper, Monsieur Lebrun ?
Pas longtemps, en effet, il s'est tenu à la croisée des chemins, tirant avantage de sa double généalogie intellectuelle, arabo-musulmane et européenne. Mais la montée de l'islamisme politique va changer non pas sa position, mais sa partition. Déjà dans les années 1990, en Algérie, les généraux avaient empêché par tous les moyens les islamistes de tirer profit de la victoire qu'ils avaient remportée aux élections de 1992. Nombre d'intellectuels du pays, habitués de la table des Medeb, qui jusqu'ici était un lieu de réjouissance sans arrière-pensée, se trouvent pris entre deux feux. Souvenir d'Hind Medeb.
Parmi les gens qu'on voyait beaucoup, parmi les personnes qui m'ont le plus marqué, c'est les intellectuels algériens dans les années 90 qui venaient réfugiés à Paris à l'époque des années noires en Algérie. Donc les années noires, quand il y avait des attentats quotidiens à Alger et puis dans tout le pays, des assassinats. Et c'était juste après l'interruption du processus démocratique, l'élection du fils en Algérie, le parti islamiste. Et puis ensuite, les islamistes qui sont partis dans le maquis et qui sont devenus une guérilla islamiste en Algérie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donc à l'époque, par exemple, Tahar Djaout est venu dîner à la maison. Il n'a pas supporté l'exil à Paris et il a décidé finalement de rentrer à Alger. Et très peu de temps après, il a été assassiné, en 1993. Et je me souviens de cette phrase qu'il avait écrite dans l'une de ses chroniques, dans le journal dans lequel il écrivait à Alger, qui était « Si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. » Donc en fait, tu n'as rien à perdre, continue à écrire. Et il a été assassiné par un intégriste qui s'appelle Al-Afghani, tué par plusieurs balles à bout portant en bas de chez lui. Et en fait, pourquoi je pense beaucoup à tous ces intellectuels algériens et pourquoi ils m'ont marqué, c'est parce que j'espère et je voudrais aujourd'hui qu'on les étudie, qu'on les connaisse, qu'on les étudie en classe, en fait. Parce que quand il y a eu, par exemple, l'assassinat de Samuel Paty et puis toutes ces débats autour de la question des caricatures, je pense que plutôt que de faire les choses de manière frontale et de dire il faut montrer ces caricatures, donc qui par ailleurs Abdelwahab en avait beaucoup parlé, il disait qu'elles étaient des caricatures qui avaient été publiées à l'époque déjà dans ce journal danois, il disait qu'elles étaient islamophobes et qu'elles étaient du même acabit que les caricatures à l'époque où la chrétienté et l'islam étaient en guerre et à l'époque des croisades et que donc en fait elles n'avaient pas grand intérêt mais que le droit de blasphémer etc était quelque chose qu'ils défendaient et pourquoi je vous dis ça parce que c'est important de rappeler que les premières victimes de ce type de terrorisme et de violence, c'est en terre d'islam. Et ça continue, avec des attentats quotidiens dans des villes comme Kaboul, en Somalie, enfin, partout où les intellectuels sont attaqués. Et ces intellectuels algériens, ils ont ça en commun avec nous, qu'ils écrivent en français, que la langue française leur est familière, qu'il y a un lien très fort avec la France, et qu'on aurait intérêt, en fait, à célébrer ceux qui ont résisté au terrorisme, ceux qui ont résisté à l'islam radical, et dont Abdelwahab est l'héritier, ou disons le contemporain, l'ami, et c'est ce que lui a essayé ensuite de faire beaucoup plus tard, à la suite des attentats du 11 septembre, quand il a écrit ce livre, La maladie d'Islam, qui a été un tournant dans sa carrière littéraire.
C'est qu'il faut, dit-il, reconnaître que dans le Coran, en miroir des versets de la bienveillance, il y a les versets de l'épée. Comme dans l'Ancien Testament d'ailleurs, mais dans l'Ancien Testament, la violence était davantage le fait des rois que des prophètes, et l'Ancien Testament a été suivi d'un nouveau, qui rend un son beaucoup plus pacifique. Mais Deb, qui par bien des aspects est un homme des Lumières, ne se prive pas de citer Voltaire « On ne fait jamais de bien à Dieu en faisant du mal aux hommes ».
Les visites que je faisais en Égypte, entre l'Égypte de 1975, 10 ans après 85, je vois une Égypte totalement changée, incompréhensible pour moi. Je reviens en 97, le mal est encore pire. La concession faite par l'islam officiel, l'islam des États, aux messages des islamistes, des prêches terribles que j'entendais à la télévision officielle, un certain Shahraoui par exemple, un diffuseur de superstition, d'obscurantisme, tout est dans le Coran, de l'atome, à l'électricité, des choses aberrantes. Je suis arrivé en Égypte pour un séjour où j'alternais mes séjours avec Paris pendant 4 années pour des raisons familiales, juste à la veille, en septembre, à la veille des attentats de Luxor. Et quand ces attentats ont eu lieu, personnellement, je n'étais pas du tout surpris parce que j'ai eu le sentiment que ces attentats n'étaient que le passage à l'acte de tout ce que j'entendais, que ce soit dans les télévisions, dans les prêches, même chez les intellectuels laïcs. parce que quelque part, il y a eu une contamination ou une volonté de vouloir fonder une identité profondément structurée autour de l'islam, qui se voulait distinctive et polémique et différenciée par rapport à l'Occident. Et personnellement, je me sentais profondément des deux.
Abdelwahab était beaucoup plus dans la littérature, la poésie, et puis aussi la célébration de la civilisation islamique, mais plutôt comme grande culture. Et à un moment donné, il a fallu qu'il se penche sur les questions théologiques, qui n'étaient pas forcément celles qui l'intéressaient le plus. Après les attentats du 11 septembre, il va écrire « La maladie de l'islam », ce livre qui essaye de parler de la genèse du terrorisme islamiste. Et pour lui... Il se sentait presque un devoir de répondre et d'être une voix qui puisse être en lutte avec cette idéologie.
Contre les mauvais bergers qui amenaient auprès de la malédiction.
Auprès de la malédiction, exactement. Mais ça l'a beaucoup épuisé et puis surtout ça l'a détourné d'une partie de son œuvre qui est beaucoup plus littéraire.
Oui, au lieu des secrètes et lentes instructions des maîtres soufis que Medeb rêvait, au lieu même... des enseignements prudemment conservateurs, comme avait pu en prodiguer son père, à la Zitouna de Tunis, les prédicateurs islamistes du net multiplient leurs fatwas, la toile répand leurs invectives, les mauvais bergers qui mènent au pré de la malédiction.
Empédocle parle d'un pré de malédiction dans lequel prospèrent les démons et dans lequel prospèrent tous les maux qui assaillent l'humain. Et la description de ce pré de malédiction m'a profondément saisi. Il se trouvait que contemporainement, la nouvelle traduction que venait de paraître d'Empédocle, je la lisais pendant que j'avais visité Auschwitz et j'ai eu le sentiment que ce pré de malédiction s'incarnait dans Auschwitz. Ce que je voyais, ces restes de l'horreur et de l'horreur absolue, surtout qu'il y avait le lieu, le pré lui-même qui était là. Et par la suite, je me suis dit, mais finalement, ce mal qui corrompt l'humain, dont parle ce grec si ancien qui a 2500 années d'âge, continue, circule entre les nations et les langues. Avec Auschwitz, ça a été donc l'Europe, la catastrophe européenne. Nous la connaissons tous. D'ailleurs, c'est un traumatisme tel qu'une bonne Europe est en train de naître à partir de ce traumatisme, parce qu'il y a eu un travail extraordinaire pour expulser de soi Auschwitz en Europe. Et ça, c'est immensément précieux. Et malheureusement, ce prêt de la malédiction, j'ai comme le sentiment que des agents venant de l'islam y habitent en ce moment.
Le combat, selon lui, se livre entre 10% d'islamistes politiques et 10% de musulmans acquis aux valeurs laïques. Mais le combat est inégal, parce que les premiers bénéficient d'alliances surprenantes chez des activistes d'extrême gauche qui détestent l'Occident, et surtout, ils sont soutenus par une manière d'international financée par des pétrodollars. Et en face des islamistes, de plus en plus de militants d'extrême droite qui contaminent ce qui reste du catholicisme en le réduisant à un rôle de gendarmerie des mœurs mortes. Quand il parle d'Éric Zemmour ou de Patrick Buisson à sa femme et à sa fille, Medeb dit « Mais vous remarquez pas qu'ils ne vous aiment pas, vous, les femmes, ni la beauté ?»
Pour quelles raisons, dans les sociétés arabo-musulmanes d'aujourd'hui, les femmes sont-elles un enjeu clé pour Medeb, Monsieur Lebrun ?
Il faut attendre de lui qu'il remonte de visage en visage, mieux vaut qu'il ne soit pas voilé ce visage, aux sources souvent oubliées. Et puis que derrière les sources, il en trouve d'autres encore dissimulées. Que dit, demande-t-il, la littérature ancienne, mais jamais passée ? De Khadija, la femme du prophète, qui fait le truchement entre le prophète et l'ange, et c'est pas rien. Il va aussi raconter dans son émission Culture d'Islam ce que furent les saintes de l'islam, chez les soufis, les soufias, ou les femmes dévoilées de Mauritanie au XIVe siècle. Et puis, même s'il lui arrive assez rarement d'inviter des politistes, il va discuter de la situation présente, avec quelqu'un comme la franco-tunisienne Sophie Bessis qui n'a pas sa langue dans sa poche.
Il y a donc une vague, me semble-t-il, qui n'est pas seulement propre au monde arabe d'ailleurs, on pourrait en trouver des équivalents dans d'autres régions du monde. Bon, donc de crispation, de panique identitaire, avant la crispation, je crois qu'on peut parler de panique identitaire. Du fait de menaces tout à fait réelles ou totalement fantasmées. Il y a les deux, je crois, dans le monde arabe. Il y a des agressions réelles, on les connaît.
Et ça, c'est le phénomène de tout ce que charrie la mondialisation.
Et il y a le fantasme qui est très vieux dans l'imaginaire arabe, je crois que vous connaissez mieux que moi cet imaginaire, qui est très très ancien dans l'imaginaire arabe, c'est-à-dire que les Arabes restent à la recherche d'une splendeur perdue, qu'ils magnifient d'ailleurs d'une certaine façon, mais il est évident qu'il y a une surdétermination religieuse. Évidemment, je crois que l'islam dans le monde arabe, et c'est quelque chose de très important à analyser, fonctionne à la fois comme religion et comme idéologie. Et donc cette idéologie de l'islam, disons, a construit un islam totalement fantasmé, un islam du retour, on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs.
Celui de la distinction, voilà.
Et celui de la distinction. Et donc à ce moment-là, la distinction, c'est la différence, vous le savez très bien. Il faut se différencier, il faut se distinguer. Et il faut se distinguer dans la révérence à des prescriptions supposées du religieux. Et cette révérence à des prescriptions supposées du religieux, c'est avant tout le comportement des femmes.
Il y a un verset dans le Coran que Abdelwahab répétait toujours, qui s'appelle « Lahu Jamil ou Abihabbul Jamal », ce qui veut dire « Dieu est beau et il aime la beauté ».
Mais si vous n'avez pas aimé, comment pouvez-vous comprendre quelque chose à la vie spirituelle ?
Exactement, et ce qu'on voit dans les sociétés ont développé une vision dogmatique de l'islam, donc je pense très précisément aux pays du Golfe, à l'Arabie Saoudite. Pour moi, c'est la conjonction, et c'est ce qu'Abdelwahab disait, c'est la conjonction de ce qu'il y a de pire dans le capitalisme et de ce qu'il y a de pire dans la théologie et la bigoterie, etc. Donc un pays comme l'Arabie Saoudite, je vais vous parler d'amour, justement, l'Arabie Saoudite ou les Émirats, enfin tous ces pays. L'amour, il n'y a pas de place pour l'amour. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Les mariages sont des mariages arrangés, donc ce sont des familles qui s'allient entre elles, donc c'est des rapports de pouvoir. Alors l'amour peut, par hasard, arriver dans ces cas-là. Donc en fait, tout est fait pour empêcher l'amour. Mais malgré tout, l'amour est toujours là. Je vous raconte une autre anecdote par rapport à l'Arabie Saoudite qui me fait beaucoup rire. C'est que, en fait, les jeunes là-bas, pour draguer, donc ils marchent dans des centres commerciaux. Et puis, ce qu'on fait, c'est que quand quelqu'un vous plaît, vous lancez un petit bout de papier avec le numéro de téléphone. Et puis ensuite, il y a ce qui s'appelle les amoureux au téléphone. Donc, vous les voyez jamais, mais vous avez des discussions amoureuses. Donc, voilà, quand c'est interdit, de toute façon, on trouve toujours des moyens de détourner l'interdit.
Or, disait Ibn Arabi au XIIIe siècle, l'amour seul et la religion. Cette ode lui est dédiée.
Monsieur Lebrun, en prolongement de cet engagement, la révolution tunisienne de 2011 va pousser Medeb à prendre une position publique dans son pays. Diriez-vous qu'il était temps ?
Oui, parce que de la Tunisie, il disait qu'il s'était établi ailleurs, mais il voulait pouvoir y retourner, et donc il a beaucoup économisé ses critiques contre Ben Ali. Il ne l'a pas protesté contre la terreur qu'appliquait le régime aux militants islamistes, au fond, a-t-il avoué. J'en étais même soulagé. Alors en Tunisie, une question autre que celle de l'intégrisme taraude le pays. L'inégalité régionale, et c'est de la Tunisie des steppes que surgit en 2010 à Sidi Bouzid, un jeune colporteur qui s'immole par le feu. À la différence des terroristes qui, ceinturés d'explosifs, se jettent dans la foule qui n'en peut mais, Mohamed Bouazizi a offert le peu qu'il avait, son corps. Et Medeb l'a admiré. Inde, sa fille, a fait beaucoup aussi pour que son père comprenne la révolution tunisienne, à laquelle il consacre très vite un essai, où il la compare au printemps de Prague. C'est une révolution qui circonscrit au maximum la violence, une révolution polie. Et peut-être a-t-elle des chances de se prolonger en réussite? Il veut s'en persuader, mais en même temps il s'inquiète des victoires électorales et juridiques que peut remporter l'islamisme. Réflexion, après coup, digne de Medeb.
On avait un désaccord sur ce sujet, c'est qu'il disait que la dictature de Ben Ali était un moindre mal face à une dictature religieuse, intégriste, islamiste qui menaçait à ce moment-là. On est contemporain des fameuses années noires en Algérie, dans les années 90, c'est quand même 300 000 morts. Donc on peut comprendre qu'il ait parlé de ce moindre mal. Ce avec quoi moi je n'étais pas du tout d'accord. J'ai toujours pensé que quel que soit le prix de la liberté, il fallait toujours choisir la liberté. Par contre, ce que je peux comprendre, alors ne pas les défendre, c'est une histoire qui est très compliquée. En fait, il y a deux choses. Est-ce que vous regardez l'histoire à hauteur d'homme? Donc c'est deux, trois générations qui sont sacrifiées. Ou est-ce qu'effectivement on regarde l'histoire au temps long et on dit effectivement il fallait laisser le fils prendre le pouvoir et ensuite en fait au bout de une ou deux générations les gens d'eux-mêmes vont rejeter ce populisme, ce fascisme et vont comprendre que c'était un mauvais choix. Et à ce moment-là, le pays va vraiment évoluer par lui-même et pas avec une dictature qui va imposer, une dictature laïque qui impose, qui met tous les religieux en prison. Et je vais vous donner un exemple historique très intéressant, mais au prix d'années et d'années de sacrifices, qui est un pays où je suis en train de faire un film en ce moment, le Soudan, qui a vécu entre 89 et 2019 30 ans d'une dictature militaire et religieuse, donc vraiment tous les mots, avec la charia appliquée à la lettre, et donc une vie au quotidien atroce pour les Soudanais. Et aujourd'hui, la révolution, elle rejette, et c'est la première fois que j'assiste à une révolution dans le monde arabe qui se passe de cette manière-là, ils rejettent massivement l'islam politique. Et donc, c'est un rejet populaire de l'islam politique. Ce rejet populaire de l'islam politique, il n'est possible que parce qu'il y a eu ces 30 années de dictature religieuse. Et si je vous dis un des principaux slogans de la révolution soudanaise, Madaniya, ça veut dire le pouvoir au civil, et en fait ça veut dire un état séculier, où ni les militaires ni les religieux n'interviennent. Et parmi les slogans que je voyais sur le sit-in révolutionnaire à Khartoum, il y avait « Au diable les religieux », « Pour un Soudan sans tribalisme », pour la liberté de conscience, voilà. Et c'était la première fois que j'étais dans un pays musulman en plein Ramadan. Et il y avait toute une partie de la jeunesse qui ne faisait pas le Ramadan et personne ne leur reprochait. Alors qu'encore aujourd'hui, dans un pays comme le Maroc, si vous mangez pendant le Ramadan publiquement dans la rue, la loi, c'est que vous êtes arrêté, il y a plusieurs jours de prison, vous avez une amende, c'est interdit.
Allez, l'intégrisme ne l'emportera pas au final. Abdelwahab en était convaincu intimement. Les atteintes portées à l'équilibre écologique l'inquiétaient peut-être davantage, notamment dans le Sud, qui ne l'aimait pas spontanément au premier rang de ses préoccupations et tentait d'imiter le Nord. Il ne voulait pas, par exemple, que la côte marocaine connaisse le même sort que l'espagnol. Il dénonçait les menaces qui pèsent sur Marrakech. « Nous sommes plus modernes que les destructeurs modernistes qui bétonnent la palmeraie. » Et qu'adviendra-t-il des jardins et de leurs arbres dispensateurs d'ombre et de fruits, de leurs frondaisons qui accueillent le vent et se meuvent à son souffle? Pourrons-nous encore habiter le monde en poète? Le monde est malade et lui, il va mourir.
Je pense qu'Abdelwahab voulait cultiver le dialogue avec les morts. Et quand il était très malade dans la chambre d'hôpital, la nuit, parce qu'on dormait à tour de rôle avec lui pour ne pas le laisser seul dans la chambre, la nuit, il avait parfois, il se réveillait en pleine nuit et il était en discussion très souvent avec Ibn Haytham. Ibn Haytham, c'est un philosophe, mais aussi un mathématicien et surtout un spécialiste de l'optique qui a fait apparemment, alors moi j'y connais rien, hein, mais qui a fait une découverte qui a été fondamentale ensuite pour la science occidentale et qui a été reprise dans la Renaissance italienne du XVIe siècle. Voilà, et il était fasciné par ces personnages et pour lui, il n'était pas mort. Et ça, c'est quelque chose dont Christian Jambé pourrait bien vous parler, qui est l'immortalité de l'âme, l'immortalité de la pensée. Il y a un texte que Christian Jambé a traduit, qui était aussi une référence pour Abdelwahab, qui s'appelle « Se rendre immortel » de Moulla Sadra Shirazi. Et en fait, qui explique que quand vous écrivez, la pensée que vous produisez, elle est éternelle, elle est là.
Allez, deux noms pour finir. Spinoza, en Occident, qui travaillait dans l'optique, lui aussi, et qui était considéré comme indigne. Et, en Orient, le maître Ibn Arabi, qui est mort en 1240 après tant de voyages dans le même espace qu'Abdelwahab avait parcouru, et qui disait... Que ton cœur soit le temple qui accueille les croyances, toutes. Nos remerciements à Inde Medeb, qui, avec sa mère Amina, est en train de créer une association des amis d'Abdelwahab Medeb, dont on trouvera les références sur notre site. La prise de son, Yvan Turc, et à la Maison de la Radio et de la Musique, Selim Gheribi, les agents d'intelligence service, Frédéric Martin, Franck Olivard, et la réalisation, Audrey Ripouille.